Salut, c'est Alexis. Vous allez écouter l'épisode numéro 26 du podcast de Contournement. C'est toujours dédié aux technologies no-code. On continue à recevoir des gens passionnants, épisode après épisode. Alors si vous ne connaissez pas encore, sachez juste qu'on propose des formations à tous ces outils. Alors n'hésitez pas à aller les voir si ces technologies vous inspirent des choses. Aujourd'hui, on va parler de Typeform, que vous connaissez déjà sûrement, mais pas autant que mon invité, ça je peux vous le garantir. En effet, Nicolas Grenier est évangéliste chez eux, et je peux vous dire que j'ai appris un paquet de trucs sur Typeform alors que je pensais pas trop mal connaître l'outil. Plus que jamais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable dans l'arsenal de tous nos codeurs qui se respectent, parce que mine de rien, on est amené hyper souvent à faire des formulaires, plein de contextes différents dans nos projets. On a passé un très bon moment avec Nicolas, qui m'a partagé plein de super histoires sur la société Typeform, leur vision et puis ce que font les usagers de Typeform, puis aussi des choses plus personnelles sur son parcours et ses side projects. Bref, un épisode bien complet comme on les aime, avec lequel je vous laisse tout de suite. Bonjour Nicolas, merci d'avoir répondu présent à l'appel du podcast de Contournement. Alors on a eu l'occasion de se rencontrer l'année dernière à la NoCode Conf, il y a presque exactement un an à San Francisco. Malheureusement d'ailleurs, je crois qu'il n'y en aura pas une nouvelle édition cette année, avec les circonstances actuelles. Donc nous on était là-bas, on pensait qu'on était les seuls Français, puis tu nous envoyais un petit message sur Twitter pour nous dire que toi aussi t'étais Français, alors que sauf que toi tu habites à San Francisco, tu travailles chez un éditeur que nos auditeurs connaissent déjà sûrement bien, qui est Typeform. Voilà, donc tu vas nous expliquer ce que tu fais là-bas. Évidemment on va parler de NoCode, puisque Typeform occupe une place très importante dans cet écosystème. Donc voilà, tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est, ce que tu y fais, et puis parler no-code à travers tout ça. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ?
Ouais, carrément. Salut tout le monde. Moi, c'est Nicolas. Et effectivement, on s'est rencontrés à la No-Code Conf organisée par Webflow il y a de ça un an. Et je te dirais que c'est un peu compliqué d'être les seuls Français à San Francisco parce qu'il y a une énorme communauté de Français qui habitent ici, de gens qui sont venus s'expatrier pour créer des boîtes ou participer à d'autres aventures. Et donc c'est mon cas, ça fait plusieurs années que je suis à San Francisco et maintenant depuis 3 ans chez Typeform où je suis développeur advocate. Et donc ça, on a ouvert notre bureau à San Francisco il y a 3 ans. On est à la base une boîte de Barcelone. Et l'objectif de notre bureau ici, c'était tout ce qui était autour des partenariats et des intégrations, histoire de être le plus proche des boîtes de la Silicon Valley, des autres boîtes SaaS, et d'avoir accès à tout cet écosystème.
Typeform, c'est espagnol à la base ? Vous étiez basé à Barcelone ? Enfin, j'avoue que moi, dans ma tête, c'était une boîte de la Silicon Valley.
Eh ben ouais, alors je sais pas comment on a réussi ce tour de passe-passe, ce tour de main, mais ouais, tout le monde pense qu'on est basé à San Francisco et qu'on est originaire de San Francisco. Et en fait, non, notre originalité, c'est de dire qu'on est de Barcelone, se réclamer de cette identité de Barcelone, mais jouer aussi le côté global et le côté... on fait comme les grands de la Silicon Valley tout en restant en Europe.
Ok, bon bah voilà, j'ai déjà appris quelque chose, comme quoi je prépare pas si bien que ça, mais ces épisodes, ça va commencer à se voir. Est-ce que, juste pour savoir rapidement un petit peu ton parcours avant, et savoir notamment est-ce que tu as un background tech toi-même, puisque tu es développeur advocate, comme tu dis, voilà, tu t'occupes des relations de l'éditeur avec les développeurs notamment, enfin tu vas nous expliquer ça un peu mieux, mais justement j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené à ça.
Ouais, alors moi du coup c'est un parcours assez classique en termes d'études, hein. J'ai fait une école d'ingénieur en France, à Belfort, pour ceux qui seraient intéressés de découvrir ce territoire, et en fait, lors de mes premières expériences dans la Silicon Valley où j'étais venu en stage, j'ai découvert qu'en fait ma vraie passion c'était d'abord la technologie, mais surtout c'était tout ce qu'il y avait autour de la technologie, donc c'était les hackathons, les communautés, les meet-up, toute la partie un peu sociale de ce truc-là, et donc de devenir un peu je me suis rendu compte que j'étais un geek social, et en fait le job de développeur advocate c'est exactement ça, c'est d'essayer de fédérer une communauté autour d'un produit, d'une idée, d'une technologie, et d'aider le mieux que possible les utilisateurs de cette technologie à rêver et à exaucer leurs rêves les plus fous. Et donc moi mon rôle chez Typeform c'est exactement ça, c'est écouter les idées de cette communauté, voir qu'est-ce que ça peut influencer sur notre produit, et être à l'écoute des développeurs pour que notre produit aille dans cette direction et réalise leurs rêves, quoi.
Alors c'est intéressant parce que quand tu dis développeur, est-ce que Je pense que oui, ça englobe aussi les no-codeurs.
Ouais, exactement. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai l'impression dans la boîte d'être dans celui qui s'occupe de cette communauté de no-codeurs, parce qu'au final, c'est les mêmes personnes. C'est les bidouilleurs, les makers, c'est ceux qui vont aller pousser les produits, la technologie un peu plus loin. Alors, parfois en mettant les mains dans du code, parfois juste en étant à la frontière de ça. Mais le cas d'usage va être le même. Et les expérimentations vont aller dans le même sens, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'on offre de base. Quoi.
Ah, c'est intéressant, c'est vraiment cet angle qui va nous intéresser, je pense. C'est pas juste voilà, apprendre aux gens, enfin je pense que c'est même pas ça ton job du coup, d'apprendre aux gens à utiliser Typeform, c'est comment aller plus loin, comment utiliser les API, comment utiliser les intégrations, toutes ces choses-là, et vraiment construire des choses autour de Typeform, quoi, finalement, si je comprends bien.
Ouais, c'est exactement ça, et de se dire que et je pense que là la mentalité no code et la mentalité de hacker, c'est là que ça se retrouve, c'est que on n'est pas limité par le produit qui est offert par la boîte, par Typeform ou par une autre, mais on va aller chercher à aller plus loin, à connecter les choses entre elles, et de là débloquer de nouveaux usages, et de là innover, et de là ne pas réinventer la roue non plus, quoi. Pouvoir se baser sur ces différentes briques et construire des projets autour de ça.
Ça, c'est vraiment une notion fondamentale, je pense, cette idée de ne pas réinventer la roue et de connecter des outils entre eux, de prendre les meilleurs outils au bon moment, enfin, pour son projet, pour la bonne brique de son projet. Je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental et Typeform a une bonne place là-dedans. Alors justement, parce que ça fait déjà 5 minutes qu'on parle, est-ce que tu peux quand même, s'il y avait des gens, je pense qu'il y en a très peu, mais s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Typeform, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est?
Ouais, il n'y a pas de souci à pas connaître Typeform. Ça doit faire 6 ou 7 ans que la boîte existe. Et ce qu'on fait à la base, au tout départ, c'est de rendre la collecte d'informations un peu plus conversationnelle et un peu plus personnelle. Donc, c'est l'idée qu'on va transformer un formulaire où généralement on vous dit nom, prénom, adresse, taille, un truc en plus en mode « Hey, salut, comment tu t'appelles ?» Ok, génial Nico, quel est ton travail? Oh, super Nico, on voulait savoir qu'est-ce que tu penses de notre produit. Et du coup, rentrer dans une conversation plus intime, plus personnelle entre la compagnie avec laquelle vous interagissez sur un formulaire, ou l'association, ou le truc de quartier, ou même pour répondre à un mariage. Mais que ça soit ouais, plus personnel, plus spécifique à vos besoins, et un peu plus joli aussi.
Ouais, je pense que ça, c'est un des trucs qui marque tout de suite quand on découvre Typeform, c'est le design, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc, un vrai parti pris aussi. Il me semble que c'est toujours une question une question qui s'affiche à la fois. Ça, je ne sais pas si c'est paramétrable d'ailleurs.
Non, c'est pas paramétrable. C'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Et parfois, quand on fait un produit, il faut prendre des décisions et s'y tenir. Et notre module là-dessus, c'est que on ne va pas permettre aux gens de faire plus d'une question à la fois. Parce que justement, on croit dans cette interaction d'une question à la fois. Parce qu'on se dit que quand tu fais ça, la personne est centrée sur cette question. Il va y mettre toute son énergie à répondre à cette question. Et elle se projette pas dans ce qui se passe après. Donc, elle a toute notre attention là-dessus. On n'a pas vocation à faire changement ça.
Non, c'est intéressant ce parti pris. Ça se voit que vous avez aussi étudié la question. Alors, je sais pas, peut-être si vous avez des stats sur les taux de conversion, je sais pas comment on dit, de remplissage des formulaires. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a vu, lu, observé un petit peu sur ce sujet, c'est beaucoup plus efficace de faire ça que des formulaires à rallonge avec 30 questions où on les voit toutes à la suite. Enfin, le Google Form classique, on va dire. Mais je sais pas si vous, est-ce que vous avez, d'où vient ce choix aussi?
Alors, historiquement, je pourrais pas dire d'où ça vient. Je pense que maintenant, c'est un acquis après 6-7 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de faire en sorte que l'utilisateur sache où est-ce qu'il en est dans son formulaire. C'est toujours embêtant de commencer quelque chose et de pas savoir si t'en as pour 5 minutes ou si t'en as pour 1 heure. Donc, en bas, et c'est au choix du créateur du form, on peut toujours afficher une barre de progrès pour dire si t'es au début ou à la fin. La question à la fois, une question à la fois et ce type d'interaction, pour sûr, on a fait des analyses en comparant différents outils, et le taux de conversion est beaucoup plus important que sur un formulaire classique. Donc ça valide l'idée que c'est des interactions intéressantes pour les utilisateurs.
Alors, donc ça, c'est vraiment la partie formulaire. C'est ce que voient les gens qui reçoivent le formulaire, on va dire. Comment ça se passe pour créer un formulaire? Est-ce que tu peux... Bon, c'est très visuel, donc c'est toujours un peu dur dans un podcast d'arriver à transmettre ça. De toute façon, moi, j'invite les gens vraiment à essayer. Ça, c'est le meilleur point. Mais si tu veux un petit peu, on va dire, donner envie aux gens, je sais pas, les guider un petit peu dans les choix que vous avez faits sur la conception...
On peut dire que c'est le moment méditation. Il va falloir fermer les yeux, imaginer... imaginer différents espaces, différents trucs. Non, en fait, c'est quelque chose... la création du form, on s'est dit que c'était quelque chose d'évolutif et on voulait faire quelque chose où c'était en glisser-déposer ou aussi une question à la fois aussi dans la même chose. Donc, on va, en fait, on va avoir une interface de présentation du form, de preview du form. Et à la gauche, vous allez avoir la partie création, donc changement de la question, ajouter si une question est, et j'ai les mots qui viennent en anglais, required, si elle est obligatoire.
Requise.
Requise, exactement. Ou pouvoir définir une description de la question, ajouter une image. Donc, on a quelque chose en trois phases. On a les questions d'un côté, la visualisation du formulaire de l'autre et les settings liés à chacune des questions.
Les paramétrages propres à chaque question. Ouais, non, c'est intéressant parce que bon, moi, pour avoir utilisé pas mal de fois Typeform, je trouve que c'est hyper ergonomique. C'est un outil qui est à la fois très riche, et on va discuter un petit peu justement des fonctionnalités un peu plus avancées, très complexe, enfin, tu vois, et en même temps simple à utiliser, quoi. Mais quand je dis complexe, c'est-à-dire en termes de fonctionnalités, ce qu'on peut faire, c'est assez avancé. Et donc, je trouve que c'est assez... Enfin, il y a un souci d'ergonomie, de design général, et j'ai l'impression que c'est vraiment un des points forts aussi de votre équipe, peut-être.
Ouais, alors c'est le point fort, mais c'est aussi le point faible, parce qu'on n'en est jamais satisfait, on se dit qu'on peut toujours faire mieux. donc la partie création que tu vois du Typeform est sympa, est correcte, mais il y a certainement des choses qu'on peut améliorer, et notamment pour des gens qui découvrent Typeform, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui découvrent Typeform et ils n'ont pas tout de suite l'idée de comment ça va marcher, alors qu'il y a des gens qui ont grandi avec Typeform, entre guillemets, qui ont suivi les différentes versions, et pour eux, ils s'y retrouvent, ils voient les choses, ils ont certains automatismes. Et donc, en fait, à force d'utiliser l'outil, on a tendance à oublier le parcours du débutant, de la personne qui découvre. Ouais. Et donc, on va essayer de changer peut-être ce genre de choses pour que ça soit plus accessible aux novices.
Ouais, bon, de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer. Mais c'est vrai qu'on moi aussi j'ai du mal à voir maintenant avoir cet œil vraiment du débutant, mais nous donc dans nos formations quand on recommande régulièrement Typeform, et j'ai rarement eu des gens qui nous ont posé beaucoup de questions, tu vois, sur la prise en main et des choses comme ça, quoi.
Bah, l'idée c'est qu'on a fait quelque chose que tu puisses apprendre toi-même, c'est-à-dire que si tu as aussi des questions, il y a un endroit d'aide où il y a plein de tutoriels sur comment faire une fonctionnalité en particulier, comment utiliser, suivre l'exemple de quelqu'un d'autre qui a fait un cas que t'aimerais faire. Par exemple, tu fais une invitation à ton mariage, t'aimerais que les gens qui soient invités, ils reçoivent un email juste après. Comment tu fais ça, quoi? Et donc, on reprend des cas de certains utilisateurs qui ont écrit des tutoriels, et on s'inspire de ces cas réels pour expliquer comment faire ça.
Ok, ça c'est disponible dans l'aide de Typeform, ou c'est justement, ça c'est une question que j'avais, c'est un peu comment, c'est quoi les bonnes ressources pour se former, prendre en main l'outil?
Alors l'aide de Typeform, je pense que c'est le meilleur endroit, c'est l'endroit qui est le plus à jour, et c'est l'endroit officiel, entre guillemets, où est-ce qu'on peut trouver comment bien utiliser Typeform. Ensuite, il y a une communauté de fous qui a écrit plein de tutoriels sur leur cas précis, sur comment ils ont réussi à faire ce genre de truc. Et on a un blog aussi. On a un blog où on explique ce genre d'histoire quand on entend parler d'une bonne histoire.
D'accord.
Et ce blog-là, je dirais que c'est plus un blog inspirationnel qu'un blog de, voilà, on a lancé une nouvelle version de notre produit, ou on est, tout ça, c'est plus en mode, voilà les histoires des gens qui utilisent Typeform, et voilà ce qu'ils ont fait avec. Retrouvez leur forme et testez-le, et vous verrez comment ça marche.
Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des cas d'usage un peu sympa, peut-être à commencer par vous-même, parce que vous utilisez aussi vous-même beaucoup Typeform.
Ouais, alors l'avantage de Typeform, c'est que c'est vraiment un outil horizontal, donc ça peut s'utiliser de plein de manières différentes. Depuis tout à l'heure, je parle de faire des trucs pour les listes de mariage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous utilisent pour ça, mais bon, c'est pas avec ça qu'on gagne le plus d'argent. Non, l'outil, il peut être utilisé de plein de manières différentes. Chez nous, chez Typeform, on l'utilise au moins pour nous-mêmes avant le confinement. On l'utilisait, par exemple, pour notre cantine. Donc, on a une cantine à Barcelone, pour l'équipe de Barcelone, où on a 3 options de menu tous les jours. C'est assez impressionnant. Un produit omnivore, un produit vegan et un produit végétarien. Et donc, en fait, une fois par semaine, on t'envoie un Typeform dans le Slack de la boîte et on dit, bah voilà, choisis ton menu pour la semaine prochaine. Comme ça, ils savent exactement les quantités qu'ils doivent préparer. Et à la fin, bah, notre office manager qui s'occupe de la relation avec la boîte de catering a toutes ces informations-là en disant, bah voilà, lundi, bah, y a tant de personnes qui viendront et qui auront besoin d'un menu végétarien. Mardi, bah en fait, vu qu'il y a moitié de l'équipe qui n'est pas là, bah, y aura moins de gens, tout ça. Donc, ça, c'est un cas comment on l'utilise en interne. Évidemment, on l'utilise aussi souvent sur des feedbacks entre équipes ou sur des produits qui sont en train d'être lancés par certaines équipes, ou même des feedbacks de meeting, de réunions qu'on a eues en disant ben voilà, je vous ai présenté un nouveau projet, n'hésitez pas à laisser un ou deux messages dans la suite. On l'utilise pour présenter les nouveaux arrivants. Donc, on a des nouveaux employés qui viennent. Et avec ça, en fait, on l'utilise aussi en conjointement avec notre autre produit qui s'appelle VideoAsk. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais les nouveaux arrivants se présentent, enregistrent une vidéo et ensuite, on présente cette vidéo dans un Typeform. Et en fait, toutes les semaines, on a le Typeform des nouveaux arrivants et on peut rencontrer en asynchrone ces nouveaux arrivants. Beaucoup d'équipes l'utilisent aussi pour des tickets. Donc, pas mal d'équipes, l'équipe IT, l'équipe... DevOps, tout ça, ils l'utilisent pour faire du ticket. C'est-à-dire qu'on remplit un Typeform en disant, voilà, ça, c'est mon problème. C'est un problème qui a besoin d'être réglé maintenant. C'est un problème qui a besoin d'être réglé, qui peut attendre. Et ensuite, ce ticket, ben, il va dans un système de ticket. Donc, est-ce que c'est Jira? Est-ce que c'est Zendesk? Est-ce que c'est autre chose? Ça dépend de chacune des équipes. Mais comme ça, ça permet de garder une trace. Et donc, c'est assez simple au final. Donc, quand une équipe a besoin de quelque chose, ben, ils ont juste à remplir un ticket à travers un Typeform.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça va proposer une interface qui va être vachement plus agréable à utiliser que, à mon avis, le formulaire par défaut de Zendesk ou de Jira, qui je suppose en ont aussi, mais on peut du coup faire quelque chose de plus sympa et ensuite déverser... Enfin, je vais prendre l'exemple plutôt d'Airtable, parce que comme je connais pas bien Zendesk et Jira, mais les formulaires d'Airtable sont hyper basiques. Ils peuvent faire l'affaire dans certains cas, mais très franchement, souvent, c'est vachement plus intéressant pour les soucis qu'on disait au début de remplissage, etc., d'utiliser Typeform et ensuite déverser ces informations dans Airtable, quoi.
Exactement. Et alors, le truc qui est intéressant pour nous, par exemple, c'est sur cette histoire de l'équipe IT qui utilise ça pour leur ticket. Dans l'imaginaire commun, il y a plein de soucis qui sont liés aux produits qu'on utilise, des accès dont on a besoin de demander. On se dit, par défaut, c'est l'équipe IT qui va gérer ça. Et en fait, dans leur formulaire, ils ont fait... une liste d'options, ils sont là, vous avez besoin d'avoir accès à GitHub, vous avez besoin d'avoir accès à Looker ou à d'autres outils comme ça. Et en fait, il se trouve que c'est pas eux qui managent ces accès-là pour diverses raisons. Et donc, grâce au Typeform, c'est l'opportunité pour eux de se dire, ah ben ça, en fait, c'est pas nous, ça sert à rien de remplir un ticket, voilà la documentation sur comment faire. Donc, on peut arrêter le process et éviter de se faire inondé de messages inutiles parce que dans le Typeform on a pu faire une logique qui aura pu dire bah en fait ça c'est pas nous, il y a une autre solution. Ça je vois un avantage aussi là-dedans.
Ouais, ça je voudrais bien qu'on revienne après sur ces fonctionnalités un peu plus avancées, notamment la logique là que tu évoquais. Ouais. Mais juste avant qu'on passe à ça, je suis curieux de savoir est-ce qu'il y a des usages tu vois un peu, je sais pas, auxquels vous vous attendiez pas quoi, tu vois, des gens qui ont utilisé Typeform pour faire quelque chose auquel vous vous attendiez pas du tout.
Il y a des gens qui font plein de trucs avec Typeform. Le truc qui est intéressant, ce que je disais, c'est les histoires de ce que les gens font avec. Et là, dernièrement, avec du coup la crise du Covid, on a des histoires pour moi qui sont très inspirantes et qui m'ont permis, je pense, de me reconnecter avec mon job chez Typeform. Il y en a une qui est proche pour voir si les auditeurs sont en France ou. Il y a une histoire qui est proche de chez nous. À Chamonix, dans la vallée de Chamonix, il y a une famille de primeurs qui étaient sur les marchés. Donc, ça fait des années qu'ils sont sur les marchés. Et du fait du Covid, les marchés ont dû fermer. Sauf que c'est leur seul job et c'est la seule chose qu'ils savent faire. Et s'ils peuvent pas faire les marchés, ils ont pas d'autres moyens de revenus. Et en fait, comment ça s'est passé? Leur fils, qui est basé au Canada, est gros hacker dans une boîte dont j'ai oublié le nom. Et en fait, il leur a dit, vous savez quoi, on va faire un Typeform. et on va demander dans la vallée s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire un panier de légumes, par exemple, pour la semaine prochaine. Et donc, ils ont fait ça. Ils ont fait un typeform en disant, ben voilà, on est la famille Schmal, on vend les fruits et les légumes, vous nous connaissez, vous venez au nos marchés. Maintenant qu'on peut plus aller sur les marchés, on va aller chez vous, on veut vous donner des paniers de légumes. Donc inscrivez-vous, donnez-nous votre adresse et on viendra vous livrer. Et ils ont fait ça, ils ont distribué ça sur des groupes Facebook locaux. Et la première semaine, ils ont eu des centaines de demandes pour faire ça et pour aller faire livrer des paniers de légumes. Et alors, le truc qui était intéressant, bah, c'est que c'est un changement total dans cette mentalité pour cette famille-là, parce qu'en fait, c'est le truc que moi, je réalisais pas, mais quand on travaille sur les marchés, c'est essentiellement du cash. Donc, cette famille-là, ils ont touché chaque centime qu'ils ont gagné, ils l'ont touché à un moment physiquement, quoi. Et là, c'était la première fois qu'ils pouvaient facturer quelque chose, qu'ils pouvaient avoir de l'argent sur leur compte à travers notre intégration avec Stripe, mais ils n'ont pas touché cet argent-là. C'était virtuel. Et donc, c'était aussi super impressionnant pour eux. Se dire que bah, voilà, il y a déjà des gens qui ont passé des commandes, l'argent est déjà sur leur compte, ils peuvent déjà aller parler aux grossistes et aller faire leurs courses pour livrer tous ces gens-là.
Je trouve que le fait que vous ayez une intégration avec Stripe, donc la possibilité, pour expliquer, de mettre un bouton de paiement à la fin du formulaire, je trouve que ça fait qu'on peut quasiment faire du e-commerce avec Typeform. Bon, j'exagère un petit peu, mais on peut prototyper en tout cas du e-commerce, ou alors faire des choses voilà, très directes, comme l'exemple que tu viens de nous donner. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est... C'est une fonctionnalité, je trouve, qui est très importante, qui est assez décisive dans une démarche très lean startup, etc., parce qu'on peut vraiment valider des idées en faisant ces paiements, par exemple.
Ouais.
Enfin, il y a plein d'usages différents. Nous, c'est vrai qu'on est très porté sur l'amorçage de projets. Et d'ailleurs, j'ai un petit exemple, je te laisserai commenter ça, mais dans notre première promotion de formation Side Project, on avait une personne, Nathalie, qui utilisait Typeform pour faire des diagnostics de cheveux afro. Donc, c'est hyper spécifique. Mais donc, l'idée, c'était vraiment que les gens remplissaient un formulaire. Mais en fait, le formulaire, il y a une des fonctionnalités qui est super, c'est qu'on peut mettre des images pour répondre aux questions, par exemple. Et donc, en fait, elle se servait de ça, elle montrait des exemples de cheveux, parce qu'en fait, les cheveux afro, il y a plein de types différents. C'est une problématique très spécifique, mais très réelle aussi. Donc, elle voulait adresser ce problème et à fournir des solutions. Mais la partie diagnostic, vraiment, se passait dans Typeform jusque à un paiement à la fin pour demander des conseils. Enfin, après, c'était un programme. Bon, la suite, après, se passait dans autre chose, dans une séquence d'emails, mais avec des conseils personnalisé, adapté par les réponses fournies au formulaire, quoi.
Ouais, et tu fais bien de mentionner cet exemple parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un boom qu'on voit dans nos usages. C'est sur ces formulaires de qualification, personnalisation de parcours client. L'exemple des cheveux afro est vraiment très, très bien parce que tout le monde n'a pas les mêmes cheveux. On a une autre boîte qui fait ça aussi sur les cheveux qui s'appelle Olaplex. Alors, ça va être connu des gens qui ont besoin de faire des soins aux cheveux, mais tu as pas besoin de, c'est pas un soin générique, donc ils essayent de faire une expérience différente pour tout le monde et ils te posent toutes ces questions-là. Et à la fin, ils te disent, on te recommande ce produit, achète-les. Et on a vu ça sur du cheveu, sur de la crème, notre premier exemple qu'on a vu, c'était une marque qui vendait des rasoirs qui faisait ça. On a vu ça sur du jeu récemment aussi, sur des gens qui faisaient du jeu à domicile, donc un peu comme des escape rooms, ils envoyaient une boîte de jeu. Et en fait, pour être sûr qu'ils t'envoient la bonne expérience, ils te demandent d'abord quel profil de joueur tu es, combien il y a de gens chez toi, s'il y a des enfants, tout ça. Et donc, ils s'occupent d'envoyer exactement ce qui correspond à ton profil. Et c'est un cas qu'on voit de plus en plus.
Ouais, non, c'est intéressant, cette qualification. Et d'ailleurs, ça va jusque... Parce que vous avez une fonctionnalité de scoring. Je sais même pas comment traduire ça en français. Enfin, on peut, suivant des paramètres, donner des points suivant les réponses, etc. Et donc calculer des notes. Et ça, c'est par exemple très utilisé dans la prospection, ou par les gros hackers, ou par les sales, pour faire remplir comme ça une espèce de pré-diagnostic, d'une situation, quelque chose. Et ensuite voir l'intérêt du prospect par rapport à la boîte ou des choses comme ça. Ça, je trouve ça aussi hyper intéressant. Ça, c'est des usages plus avancés, parce que quand on parle de formulaire, je pense qu'on n'a pas en tête toutes ces choses-là. Je pense que les gens associent beaucoup, peut-être je présume, mais associent, tu vois, l'image un peu du Google Form, où en fait, tu fais des espèces de sondages, et puis tout ça se déverse dans des Google Sheets, et puis tu as des camemberts, quoi. Ça, c'est un peu le truc du formulaire, alors qu'en fait, avec ce que vous proposez, on peut aller carrément plus loin, quoi.
Ouais, alors un bon exemple sur cette idée de scoring, c'était pour ceux qui sont dans le monde des startups, vous avez peut-être entendu parler de Superhuman. Superhuman qui est un client mail avancé, super pratique, qui permet de gagner en productivité. J'ai jamais essayé. Bon, c'est un peu cher, ça doit être $30 par mois, il me semble. Mais c'est l'idée, c'est que voilà, si on est
PDG. Faut avoir un Mac aussi.
Oui, alors faut avoir un Mac. Enfin, mais voilà, justement, on en vient. C'est donc l'idée que si on est très occupé, on a plein d'emails à gérer, bah eux ils nous aident à gérer tous ces emails-là. Et en fait, pour être sûr, donc ils sont très spécifiques dans leur outil, mais pour être sûr de parler seulement aux personnes qui sont intéressées sur ce produit-là, ils ont fait un typeform. Et ce typeform en fait est très discriminant sur le profil d'utilisateur. Et donc effectivement, si on n'a pas un Mac, bah tout de suite on perd beaucoup de points. On n'a pas un iPhone, on perd encore plein d'autres points. Et donc à la fin, ils nous disent, bah non, en fait, vous n'êtes pas vraiment un match pour nous. Pas pour maintenant, en tout cas. Comme ça, ils se focusent seulement sur les personnes dont ils sont sûrs qu'ils auront la meilleure expérience. Et parce qu'ils étaient rendus compte qu'ils perdaient un temps fou à expliquer à des gens, non, mais on n'a pas de version Android maintenant. Et donc c'est important quand on commence une boîte, c'est de pouvoir se focusser sur les utilisateurs qui auront la meilleure expérience. Et donc, c'est un parti pris qu'ils ont fait. Et grâce à ce typeform-là, ça leur permet de filtrer ces utilisateurs et de trouver les bons utilisateurs et d'avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé quand ils onboardent leurs nouveaux utilisateurs.
Ça leur permet aussi de garder la trace quand même de ces gens qui étaient intéressés, même s'ils ne correspondent pas aux critères actuels. Mais ils peuvent les garder dans un coin. Ils ont toujours les différentes réponses. Et puis plus tard, comme tu dis, si la version Android sort, et ben ils peuvent recontacter tous les gens qui ont répondu Android, par exemple.
Exactement, exactement. Donc, c'est pas perdu. C'est juste que ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchent en ce moment.
Et alors, du coup, il y a une autre fonctionnalité, comme ça, un peu dans cette continuité des choses assez avancées qu'on peut faire avec Typeform, qui est la logique que tu as très, très brièvement évoquée tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet de faire, peut-être si tu as par un exemple même.
Ouais, la logique, en fait, c'est l'idée qu'encore une fois, on va essayer de faire une expérience du consommateur la plus personnalisée possible. Et donc, c'est l'idée qu'on n'aura pas tous le même formulaire, on ne va pas tous répondre aux mêmes questions. Et on veut poser les questions qui sont les plus relevant, les plus
pertinentes,
exactement, c'est le mot exact, merci, les plus pertinentes. Et donc par exemple, on imagine un formulaire qui servirait par exemple à postuler un job, et on pourrait utiliser le même formulaire pour tous les jobs, sauf qu'il va y avoir à un moment une question qui va s'adresser par exemple au développeur. Et la question sur quel est votre langage de programmation favori, ça marche bien pour les développeurs, mais c'est pas intéressant pour quelqu'un qui va postuler pour un job de designer, par exemple, ou d'office manager. Donc l'idée, c'est qu'on puisse poser une question avant, en disant, quel est le job auquel vous voulez postuler. Et en fonction de cette réponse-là, on va pouvoir afficher une autre question qui viendra en complément, mais qui sera spécifique à ce type d'utilisateur. Donc, si quelqu'un dit, je suis développeur, on va mettre une logique en disant, s'il a répondu développeur, alors pose-lui la question sur les langages de programmation. S'il dit qu'il est designer, pose-lui la question sur son outil de design préféré, ce genre de choses. Et donc, ainsi, on a vraiment des questions personnalisées, pertinentes pour chacun des utilisateurs. Et aussi, on fait en sorte que l'expérience soit la plus courte possible, parce que comme ça, on ne rajoute pas de questions superflues.
Et j'ai vu en fait tout à l'heure, c'est quelque chose que je n'avais pas encore vu, c'est que maintenant, il y a une interface visuelle pour faire, c'est ce que j'ai compris que c'était récent, pour justement bien voir l'enchaînement de ces questions.
Ça fait un petit moment, je pense, qu'on a sorti. Ça fait au moins un an. Mais ouais, l'idée, en fait, c'est qu'on va te montrer ça sous forme d'une espèce d'arbre. Parce que c'est compliqué d'imaginer la logique d'un formulaire, spécialement quand un formulaire devient de plus en plus long et qu'il y a plein d'imbrications. Et donc, l'idée, c'est qu'à travers un schéma graphique, on va pouvoir te montrer les différentes branches et comment les questions sont reliées entre elles. Voilà, ça aide un peu à visualiser.
Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est un peu, on retombe un peu justement dans le paradigme de la programmation visuelle, quoi. C'est, et je trouve ça sympa. Il y a ce côté un peu, on peut faire même un peu des aventures dont vous êtes le héros, des choses comme ça. Enfin, on peut imaginer plein de choses hyper créatives aussi grâce à ce, je trouve, cette fonctionnalité, quoi.
Ouais, on a des exemples d'aventures dont vous êtes le héros pour raconter des histoires. On a des trucs où quel personnage de Harry Potter êtes-vous? On peut créer exactement ce genre d'expérience grâce à ça.
Et alors d'ailleurs, du coup, ça nous permet d'aborder très rapidement VideoAsk, qui est je ne sais pas si c'est une société à part ou si c'est en tout cas un produit à part de Typeform que vous avez sorti récemment, où il y a aussi ça, mais avec la vidéo. Alors ça, j'ai trouvé ça encore plus incroyable. Et je pense qu'on va pas mal l'utiliser justement dans nos formations et tout pour faire comme ça des successions de vidéos, de questions et tout. Mais voilà, est-ce que tu veux nous en parler rapidement?
Ouais, alors VideoAsk, c'est une équipe au sein de Typeform, et c'est une équipe qui grossit. Ils ont commencé, ils étaient 2, 3, notamment avec le cofondateur de Typeform, David Okunieff. Et ça, c'est son nouveau projet sur lequel il est à fond. Ça va faire un an qu'ils ont commencé, et là, maintenant, je crois que l'équipe est plus d'une dizaine, douzaine. Et l'idée, c'est que les formulaires, c'est génial, mais il y a certaines interactions qui ont besoin d'être un peu plus personnelles encore. Et ils se disent que la meilleure interface, en fait, c'est votre face, et donc c'est votre tête en français. Ça peut être bien. Donc, à la place d'avoir un chat intercom un peu impersonnel qui est sur un site qui traîne comme ça, vous pouvez mettre votre tête et dire salut, moi je suis Nico, je suis cofondateur de cette boîte SF Cheese Party, mon truc de livraison de fromage. Vas-y, est-ce que t'as une question? N'hésite pas, contacte-nous, quoi. Et l'idée, c'est que de l'autre côté, le consommateur, l'utilisateur, va pouvoir répondre lui aussi à travers une vidéo, à travers un document audio, et aussi donc rendre cette conversation beaucoup plus personnelle. Et cette conversation peut aller au-delà du simple formulaire répondre en une fois, on peut continuer la conversation ensuite. Et là, ils rajoutent des fonctionnalités, vu qu'ils sont petits, ils peuvent rajouter des fonctionnalités toutes les semaines, c'est assez dingue, mais ils rajoutent des fonctionnalités d'équipe, donc maintenant on peut partager une inbox, donc toutes les réponses à ces formulaires vont arriver ensemble, et quelqu'un dans l'équipe différent va pouvoir répondre, donc si c'est une question sales, une question du produit, on envoie quelqu'un différent répondre, et on peut mettre de la logique, il y a la possibilité de booker un calendrier avec Calendly, la possibilité de répondre à un score NPS. Donc, ils augmentent les possibles, et tout ça toujours avec l'idée qu'on interagit par vidéo et on montre qui sont les personnes derrière le produit.
C'est assez incroyable. J'étais assez bluffé, et là, je suis en train justement d'étudier les usages qu'on va en avoir pour Contournement. Donc, voilà, les gens auront l'occasion de voir VideoAsk quand ils viendront sur le site de Contournement bientôt.
Génial.
Alors, pour en revenir à Typeform, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Il y avait une chose que je trouvais aussi intéressante dans les fonctionnalités, qui était, tu l'as pas vraiment mentionné, c'est qu'on peut reprendre des réponses des questions précédentes dans l'intitulé d'une question suivante. Enfin, tu l'as évoqué un petit peu ça, et... Ça, je sais, enfin, c'est quelque chose qui existe depuis le début, j'imagine. Je trouve que c'est assez intéressant.
C'est assez...
Est-ce qu'il y a d'autres petites fonctionnalités comme ça? Parce que ça fait vraiment de la personnalisation. Enfin, ça se voit que justement, tu le soulignes régulièrement, ce côté de vraiment faire des expériences personnalisées. Enfin, que c'est ça qui va faire que les gens vont remplir le formulaire en réalité, quoi.
Ouais, c'est important. Par exemple, quand on va envoyer un formulaire à des gens qu'on connaît déjà, est-ce qu'on a besoin de leur demander comment ils s'appellent? On le sait déjà comment ils s'appellent. Et donc, autant s'adresser à eux de manière directe en disant, Nicolas, quelle a été ton expérience quand tu as parlé au support? Ou Nicolas, on a des questions sur ton usage de notre produit, par exemple. L'idée, c'est que à travers un formulaire, on peut faire deux choses. On va d'abord parler de la façon de récupérer des réponses. On peut rappeler la réponse d'une question précédente. Ça s'appelle Recall Information dans le produit Typeform. Et l'idée, c'est que ta première question, c'est comment tu t'appelles. Et encore une fois, plutôt que de dire prénom, on pose la question genre comment tu t'appelles, comment on devrait vous appeler, quel est votre petit nom. Donc on cherche un angle un peu plus sympa. Et une fois qu'on a posé cette question, dans le reste du formulaire, on peut s'adresser à toi de manière beaucoup plus personnelle. Et donc on se dit, à la place de dire où est-ce que tu travailles, on peut maintenant dire la réponse à la première question, virgule, où est-ce que tu travailles ? Et que quand la personne va répondre au formulaire, ça deviendra Nicolas, où est-ce que tu travailles ? Ça, c'est une fonctionnalité super intéressante pour faire des formulaires vraiment personnels et même au-delà, c'est-à-dire que quand quelqu'un va, par exemple, à la fin de son formulaire, on veut lui rappeler ce qu'il a rempli, on peut dire, ben voilà, question 1, vous avez dit ça, question 2, vous avez dit ça, est-ce que tout est correct ? Vérifier que tout est correct, ok, parfait, ben on envoie. Et si c'est pas correct, ben on repose les questions. Donc, on peut faire ce genre de flow, d'organisation. Et l'autre partie qui peut être intéressante, donc c'est dans la partie où on connaît déjà des informations d'un utilisateur et on ne veut pas lui reposer des questions deux fois, c'est l'idée de rajouter du contexte. Et ça, ça passe par une fonctionnalité qui s'appelle les hidden fields, donc les champs cachés. Et l'idée, c'est que quand on va distribuer son formulaire, on va pouvoir passer dans l'URL des paramètres. Donc, ça va être le nom d'utilisateur, son ID, sa langue, tout plein d'autres trucs qui vont nous permettre de contextualiser ça. Et en fonction, on peut lui donner une expérience différente. Et donc, on va se dire, bah, par exemple, on va lui donner bah, son nom. Et là, on peut réutiliser son nom, mais on peut se dire sa plateforme, par exemple, puisqu'il est sur Mac. Et donc, au lieu de dire une question, quelle plateforme vous avez utilisée, on peut tout de suite dire, bah, voilà, on sait qu'il est sur Mac. Maintenant, on peut lui demander quel système du Mac. Et donc, au lieu de faire une liste avec Windows et toutes les versions de Windows, Mac et toutes les versions de Mac, on pourra tout de suite ramener une question. Voilà les 5 ou 6 versions de Mac qui nous seront intéressantes. Alors, on peut faire ce genre de choses. Donc, encore une fois, l'idée de personnaliser.
Et cette fonctionnalité, elle existe depuis longtemps ?
Ouais. Ouais, je dirais assez longtemps. Okay. C'est assez longtemps, mais c'est quelque chose, tu vois, qui est, je pense, dans l'usage avancé de Typeform. Parce que c'est peut-être un peu caché. un peu caché et je pense qu'il faut avoir un peu plus réfléchi à son parcours et aux informations qu'on connaît déjà et à la manière dont on pose les questions. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tout de suite.
Ok. Non, mais c'est super. Non, mais parce qu'en fait, cette fonctionnalité, j'en ai eu besoin. Alors, j'ai pas creusé vraiment parce que finalement, de toute façon, ce formulaire, je l'ai fait avec Airtable où il y a aussi cette petite fonctionnalité dans les URL de mettre des choses qui vont pré-remplir le formulaire. Mais du coup, je m'étais posé la question si c'était disponible dans Typeform, comme il m'avait pas semblé l'avoir. Voilà, c'est pour ça que je te demande si c'est récent.
Comme quoi, on doit encore améliorer notre UI parce qu'il y a des choses qui sont cachées qu'on voit pas.
Ouais, mais c'est aussi le problème, c'est que il y a justement tellement de possibilités. Tu vois, on a évoqué quand même là pas mal de choses et il y a encore des choses sûrement qu'on n'a pas évoquées. Donc, c'est aussi difficile de tout présenter, quoi. Comme tu dis, après, c'est aussi un peu l'usage. Je pense que c'est là l'angle formation. En fait, plus les gens ont des usages avancés, plus ils vont découvrir. Et voilà, après, bon, c'est bien aussi de savoir des choses. L'inverse peut marcher aussi. C'est-à-dire que si on sait que des fonctionnalités existent, on peut inventer des usages, quoi. Mais bon.
Bon, c'est comme tout, hein. C'est la première fois qu'on regarde nos chaînes, on dit, bah, c'est cool, c'est un wiki sympa, quoi. Et puis, plus on l'utilise, plus on va se dire, ah, mais on peut faire ça, on peut rappeler des informations à d'autres endroits, on peut lier des pages ensemble. Je pense que c'est un point fort de ce genre d'outil-là, c'est qu'il y a différents niveaux de lecture et plus on l'utilise, plus on devient un power user et je pense que c'est l'expérience qui est intéressante, quoi.
Exactement, et je pense que le challenge, c'est vraiment déjà le premier niveau de lecture, d'arriver à embarquer les gens, que ça soit suffisamment simple pour les gens les plus débutants, parce que les autres, de toute façon, ils vont trouver, mais tu vois, qu'il y a cette progression, en fait, ça c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que les outils les plus populaires, et Notion est un bon exemple de ça, quoi. Je pense que c'est pareil pour Airtable, pour Zapier, on arrive très vite à se mettre dedans, quoi.
Ouais.
Et puis après, nous on fait des formations à ces outils aussi, parce qu'il y a ces autres niveaux de lecture, et ceux-là, bah, si tu te formes, tu gagnes du temps, ou sinon, bah, si tu as cette logique, comme tu disais, un peu de hacker, tu vois, tout à l'heure, vraiment de creuser les choses, et bah, tu vas trouver par toi-même, parce qu'il y a plein de tutos, de contenus, et puis parce que les outils, normalement, sont quand même suffisamment bien faits pour que tu trouves la solution. Mais c'est une vision intéressante. Alors, il y a une question que je m'interrogeais un petit peu pour finir sur Typeform, sur votre roadmap. Et comment, je me doute de la réponse, mais comment vous interrogez vos utilisateurs pour prendre en compte leur feedback? Comment, tu vois, vous incluez un peu les retours utilisateurs et comment vous incluez ça dans la roadmap? Et du coup, quelle est un peu votre roadmap là pour les mois à venir, ou je sais pas, jusqu'où vous voyez, ou l'année à venir même peut-être?
Ouais, alors pas de grand mystère, on fait des Typeform. Hein. et si t'es utilisateur Typeform, tu as dû recevoir ces derniers mois des enquêtes. On en fait régulièrement en spécifiant différents types d'utilisateurs et des utilisateurs qui nous utilisent beaucoup, des utilisateurs qui nous utilisent moins. Et l'idée, c'est de savoir en fait quel est leur usage aussi de Typeform et savoir quelle fonctionnalité on doit pousser pour quel type d'usage. Parce que, comme je te dis, c'est un produit très horizontal et les gens font plein de choses différentes avec. Il y a plein de thèmes différents sur ce qui approche. Je ne sais pas combien je peux en dire, mais il y a des trucs qui devraient sortir prochainement qui seraient très intéressants sur l'expérience de création du formulaire. Il y a un point intéressant, je pense, sur lequel on est en train de travailler et sur lequel l'équipe est à fond, c'est sur l'accessibilité. Donc, nos formes, pour l'instant, ne sont pas les plus accessibles en termes de...
Accessibilité, tu parles pour les personnes en situation de handicap, par exemple.
Exactement.
Malvoyantes, pour la lecture, je sais plus comment on dit, la synthèse vocale, des choses comme ça, quoi.
Exactement. Donc, c'est des choses qu'on nous reproche souvent et on est à l'écoute de ça. C'est quelque chose qui a été peut-être négligé dans les premières années, mais là, il y a des équipes qui sont à fond dessus. C'est un thème dans chacun des nouvelles fonctionnalités qui sortent. Et je sais qu'on nous attend là-dessus. Donc, c'est important que, si quand j'ai l'occasion de le dire, j'essaie de le dire. C'est quelque chose qui avance petit à petit. Donc, on release des trucs sans faire de grandes annonces. Mais on avance sur ces projets-là. Et c'est important parce que plein de gens qui utilisent des Typeform les utilisent jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'il y a un de leurs utilisateurs qui ne veut plus l'utiliser. Donc, c'est problématique.
Ouais, non, c'est un sujet hyper important hein, parce que malheureusement c'est souvent un petit peu recalé en bas des priorités parce que ça concerne peu de gens, mais voilà, c'est vrai que moi j'ai déjà été pas mal sensibilisé à ça en tant que développeur,
ouais.
Où la manière dont tu vas coder les choses vont impacter la manière dont les gens vont pouvoir l'utiliser, plein de normes etc. autour de l'accessibilité, et c'est vrai que dans les outils no code, tu vois, on voit par exemple Webflow, ils sont aussi très très supporté sur le sujet, mais très franchement, je suis pas convaincu que tu puisses utiliser l'éditeur Webflow si t'es malvoyant, quoi. Alors bon, je veux dire, si t'es malvoyant, enfin ou non-voyant, tu auras d'autres problèmes pour la réalisation d'un site web, malheureusement. Mais on voit qu'ils essayent, quoi, qu'ils essayent de faire des choses. Je dis malvoyant, c'est seulement un des exemples de handicap. Enfin, il y a plein de choses différentes qui peuvent impacter la manière dont tu vas utiliser un site web.
Ouais.
Mais c'est un vrai sujet, donc c'est cool de voir que vous essayez de vous en occuper, quoi.
Ouais, c'est une des priorités pour sûr, parce qu'on peut pas dire qu'on fait des formes pour tout le monde si on laisse des gens de côté. Et puis dans les autres projets dans la roadmap, moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est autour de la plateforme et donc de ce qui est possible de faire avec pour les développeurs. Et il y a des choses qui devraient arriver courant de l'année prochaine à ce sujet-là, et qui sont très excitantes, parce qu'on va pouvoir faire plein d'autres choses différentes pour les développeurs, et on va pouvoir... il y aura des nouvelles API, des nouveaux manières d'interagir avec les Typeform, et donc j'ai hâte de pouvoir montrer tout.
Est-ce que... bon, justement, c'est la question, c'est le sujet sur lequel je voulais venir après, un petit peu tout cet écosystème, la place de Typeform dans l'écosystème. Justement, on va passer à ça. Je poserai ma question après, si j'oublie pas. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment aujourd'hui, et puis après peut-être on reviendra un petit peu sur ce que tu laisses entendre pour la suite, mais aujourd'hui, comment Typeform s'intègre dans cet écosystème?
Ouais, alors je dirais pas un pionnier, mais on est quand même... L'histoire du no-code, on en fait partie depuis le départ, hein, que ça soit avec Levels.io l'idée de Nomad List qui était à la base tout fait sur Typeform, et c'était au tout début, et ça grâce à une intégration Zapier. Donc on a cette intégration Zapier depuis très longtemps. À travers ça, donc on se connecte à plein d'autres choses, et on est en train de développer, vous pouvez le voir, plein d'intégrations natives qui nous permettent d'envoyer des choses sur Mailchimp, qui nous permettent d'envoyer des choses sur Google Spreadsheet, sur Airtable, sur Intercom. Et en fait, nous, c'est des choses qu'on fait. On a certaines applications qui sont faites en interne, mais on a aussi plein d'autres partenaires à travers les API qui font aussi des intégrations. Donc, on a une intégration ActiveCampaign, par exemple, qui a été faite par ActiveCampaign. On a des intégrations avec plein d'autres boîtes aussi qui arrivent. Et pour beaucoup de ces intégrations-là, en fait, c'est dans un cas de ce qu'on pourrait qualifier de data out, c'est-à-dire que les données ont été collectées chez Typeform, maintenant elles ont besoin d'aller vivre ailleurs. Donc elles ont besoin d'aller dans une liste d'emails sur MailChimp ou sur ActiveCampaign, elles ont besoin de devenir des lignes dans un tableau Airtable, ce genre de choses. Mais ce qu'on il y a plein d'autres nouvelles intégrations qui vont arriver qui sont un peu différentes. Par exemple, on est en bêta sur une intégration avec monday.com et on a quelque chose de similaire chez Airtable où en fait on va se dire que tes données sont déjà organisées, tu sais déjà comment tu veux les collecter et tu as déjà fait l'effort de faire des tables et d'organiser des colonnes sur ces plateformes-là. Et ben on va te générer le typeform correspondant. Comme ça, bah, tu gagnes du temps dans ta création du typeform. On a déjà tout qui est déjà préorganisé pour toi. Donc, on va arriver plus sur des intégrations comme ça qui vont moins sur les données qui vont bouger de l'un à l'autre, mais plus sur de la création de formulaires, de la modification de formulaires via d'autres applications.
Ouais, effectivement, pour avoir déjà testé ce que tu évoquais dans Airtable, donc c'est un bloc. Enfin, d'ailleurs, il ne faut pas dire bloc parce que s'ils viennent de renommer, maintenant, ça s'appelle des apps. Donc, il y a une app typeform dans Airtable qui permet de générer des formulaires sur la base de la table, donc du schéma qu'on a. Et puis ensuite, on peut personnaliser. Quoi. Mais,
exactement. Et si vous avez des requêtes là-dessus, n'hésitez pas à me les envoyer parce que c'est moi qui ai fait ça. Et du coup, je serais très, très curieux d'avoir vos commentaires.
D'accord. Bah, je pense qu'il y aura des gens qui doivent l'utiliser. Moi, j'avoue que je l'ai juste testé, mais c'est peut-être même quelque chose qu'on devrait mettre dans nos formations, dans notre formation Airtable. Donc, on pourra s'en reparler à la limite. Mais donc ouais, moi j'étais vraiment impressionné parce que bon, finalement avec Zapier déjà on peut quasiment tout faire quoi. C'est-à-dire que par exemple on pourrait déverser des informations des résultats de formulaire dans Airtable via Zapier, mais vous avez une intégration directe et j'étais impressionné parce qu'en fait je suis retourné voir tout à l'heure, c'est juste un moment que j'étais pas allé voir et la liste s'allonge très régulièrement quoi, j'ai l'impression.
Ouais, et alors la liste s'allonge pour deux raisons. Une des premières raisons, c'est que bah, maintenant on a une équipe dédiée à ça. Donc leur job, c'est de cracher des intégrations, et donc il y en a plusieurs dans la roadmap qui arrive pour ce semestre-ci et puis d'ici la fin de l'année. Et du coup, si vous avez des intégrations que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est ça qu'on écoute aussi. Et d'autre part, parce que ben on a un écosystème ouvert, c'est-à-dire que si jamais vous êtes en train de faire un produit et vous dites ah ce serait pas mal de pouvoir connecter avec Typeform, ben on a toutes les API qui permettent de faire ça. Et donc on a pas mal de partenaires qui viennent nous voir en disant ben voilà, ben moi j'ai fait mon intégration, elle est déjà disponible et les utilisateurs peuvent l'utiliser. Donc c'est le cas par exemple d'ActiveCampaign qui grâce à nos API ont pu développer une application Typeform assez facilement.
Mais une application qui vit chez eux.
Qui vit chez eux, c'est-à-dire que ça commence chez eux, c'est connecter un Typeform à sa liste de contacts, on clique chez eux, ça fait une autorisation OAuth, donc ça dit voulez-vous donner accès à l'application ActiveCampaign à votre compte Typeform? Oui, parfait, et donc après chez eux c'est ok, donc on a choisissez un de vos formes, choisis ton form, quelle est la question, vous demandez l'email, quelle est la question, vous demandez le prénom, quelle est la question, vous demandez le nom de famille par exemple. Et ça map avec quelque chose chez eux, chez ActiveCampaign. Et tout ça, c'est grâce à des API.
Et donc, est-ce que ce que tu évoquais, c'est cette idée de plateforme, est-ce que vous allez peut-être un peu vers ce que fait aussi Airtable, cet écosystème où on voit venir que potentiellement tout le monde pourra faire des applications, on va dire on appelle ça comme ça, des intégrations, et les mettre à disposition d'autres gens, quoi. Et pourquoi pas, après, le next level, les faire payer, je sais pas, bon, ça c'est encore autre chose quoi.
Ça c'est mon rêve de développeur quand je vois que moi du coup j'ai fait l'intégration Airtable, j'ai fait l'intégration chez Intercom, j'ai fait une intégration chez Canva et en fait tous ces partenaires là ou même chez Slack, ils ont ouvert des surfaces où les développeurs peuvent avoir leurs applications dans le produit principal. Je sais pas si c'est vers là où on va, mais c'est à mon avis si les SaaS créent des si un SaaS aujourd'hui veut exister, il faut qu'il puisse proposer ce genre de surface aussi. Et on voit ça, c'est la tendance qu'on voit dans plein d'autres applications, donc ça paraît une suite logique.
Bon, l'avenir nous le dira alors.
Ouais, stay tuned.
Exactement. Non, mais c'est ça qui est passionnant dans cet écosystème. Moi, je me lasse pas de faire des podcasts et de suivre tout ça parce que ça évolue très vite et c'est passionnant. On est au début encore de tout ça. Même, voilà, Typeform qui existe déjà depuis 6-7 ans, comme tu le disais, a encore vous avez devant vous plein de possibilités, d'options, de choses qui vont être hyper intéressantes, quoi. Alors, on arrive un peu sur la fin. J'ai quelques questions un petit peu plus générales, on va dire, justement pour toi, un petit peu de ton point de vue. Quelle est un petit peu ta vision du no-code, tu vois, on va dire, et un petit peu son avenir, justement, si un petit peu plus prospectif pour... Tu as évoqué un peu Typeform, mais peut-être pour le reste aussi.
Ouais, moi, le truc qui m'excite beaucoup, hein, je suis développeur à la base, hein, c'est l'idée que on peut ramener beaucoup plus de gens dans ce monde-là, on peut leur montrer qu'il y a des choses possibles et mettre un pied à l'étrier beaucoup plus facilement. Donc, je pense que c'est la partie très encourageante, c'est-à-dire qu'encore cette histoire de cette famille des Alpes en France qui n'avait pas touché la technologie, qui était un peu réfractaire à l'idée d'arrêter de faire quelque chose en physique, alors que leurs enfants disaient bah regardez, on pourrait peut-être essayer, et qu'il a fallu une crise pour qu'ils le fassent, et que maintenant en fait ils ont moins peur. Et je pense que c'est un des outils, un des avantages de ce no-code, c'est que on va rendre les choses un peu plus accessibles et ça va faire moins peur. Et du fait que ça fasse moins peur, il y a plus de gens qui vont se lancer. C'est un de mes espoirs là-dedans. Et aussi, le grand espoir, c'est qu'il y a plein de choses qui restent à faire. Hein. Donc, il y a des no-code de connecteurs. Donc, on a du Zapier, du Parabola, du Integromat. Maintenant, on a du no-code d'applications mobiles. On a du no-code de machine learning. On a du no-code de plein de choses. Et donc, il y a encore il y a des espaces à no-codifier, entre guillemets.
Ouais. C'est clair. Et puis après, c'est l'interconnexion de tout ça qui donne encore plus. C'est comme une combinatoire de tous les projets qu'on peut faire avec tous ces outils, quoi.
Exactement. Et encore une fois, moi, en tant que dev, si je peux gagner du temps là-dedans, si je peux gagner en efficacité, si j'ai pas à déployer mes propres serveurs, ça me va très, très bien aussi. Et j'ai aucun, je me sens pas mal de ne pas avoir à coder des lignes. Je me sens au contraire beaucoup mieux.
Ouais, voilà, une perspective intéressante. C'est toujours intéressant de parler no-code avec des gens qui sont développeurs. Je trouve ça toujours intéressant, mais ça dépend après. Il y a deux écoles, quoi, dans les développeurs, mais là, ce que t'évoques. Alors, j'ai une dernière petite question. Deux dernières, en fait. On pose ça à tous les gens qui viennent sur le podcast. Si t'avais un side project, on va dire, à faire avec des outils no-code, qu'est-ce que ça serait? Et si t'en as un, quel est-il, quoi?
J'ai un side project débile que je vais devoir...
C'est les meilleurs.
Que je vais devoir arrêter, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas vraiment continuer. Il y a deux ans, trois ans, en fait, en habitant à San Francisco, je me suis rendu compte que les gens ne faisaient pas vraiment de soirée raclette. C'est un problème, quand même, de ne pas faire de soirée raclette. Et bon, alors la première raison, c'est que les Américains ne connaissent pas vraiment la raclette, donc ça me paraît assez simple. Et bon, il y a une communauté d'expatriés ici, ou de gens originaires de France ou de Suisse. Du coup, je me suis dit, j'allais me lancer un truc. Un jour, j'ai acheté un nom de domaine, et pour une fois, j'ai fait un truc avec ce nom de domaine. Ça s'appelle sfcheeseparty.com. Et ça existe même en nom de domaine emoji, donc ça veut dire que je suis allé assez loin dans le délire. Donc c'est le pont de nuit, la rondelle de fromage et le tata, et ça, .ws, si vous voulez vous amuser avec des noms de domaine en emoji. Et donc l'idée, c'était de pouvoir réserver sa soirée raclette et qu'on vienne ensuite te livrer ton appareil à raclette et la charcute, les patates et le fromage. Et voilà, donc et tout ça, ça commençait avec juste un Typeform avec une intégration Stripe, et ça fait juste ça pour l'instant. Mais si je devais continuer là-dessus, si c'était vraiment un vrai business avec du vrai trafic, pour l'instant, il y a juste deux, trois trucs, il y aurait certainement beaucoup plus d'intégration, de la notification sur Slack, une application mobile, en utilisant certainement Bravo pour faire un truc vraiment, Bravo Studio pour faire un truc vraiment design, des connexions dans tous les sens pour pouvoir avoir VideoAsk. Moi, j'aimerais bien utiliser VideoAsk pour avoir du feedback. C'est-à-dire qu'à la fin de votre soirée, on vous envoie un VideoAsk, vous enregistrez le message, ou même pendant votre soirée, je pense que ça peut être encore plus sympa. On vous envoie un message et après, on publie ces vidéos sur le site, quoi. Et ça rend le feedback beaucoup plus personnel encore, en disant, voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien trop mangé, ça se voit à ma tête, je suis bien content. Voilà.
Ça serait les meilleurs témoignages clients pour convaincre d'autres clients, à mon avis.
Exactement, un Yelp en vidéo, quoi.
D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de te poser une question très importante que je voulais te poser, qui n'est pas obligée d'être très longue, mais c'est, je me demandais si, quels outils no-code vous utilisez, vous, au sein de l'équipe Typeform.
Bonne question. Typeform, Zapier pour sûr. Ensuite, on a, je ne sais pas si ça rentre dans du no-code, mais on a des trucs d'automatisation du genre envoyer un email si l'utilisateur a fait telle tâche ou telle tâche. Ça s'appelle Iterable, donc ça c'est plus de la marketing automation que du no-code pur. On utilise pas mal Unbounce pour nos landing pages.
Ok.
Et Notion, mais ça on n'utilise pas Notion en public. Je suis sûr qu'on utilise plein d'autres trucs. Mais essentiellement, Zapier et Typeform.
Ok, bon, c'est super intéressant. Écoute, merci pour tout ça. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter? Justement, tu disais tout à l'heure que les gens peuvent te contacter pour, s'ils ont des, par exemple, sur les intégrations Airtable.
Ouais, je suis souvent sur Twitter. Je suis accessible sur Twitter et sur plein d'autres plateformes. Mon username, c'est Picsou. NG, comme Nicolas Grenier, et voilà, me demandez pas pourquoi Picsou, mais ça date d'il y a déjà 20 ans.
Pourtant, c'est littéralement la question que j'avais en face de moi, mais bon, du coup, je te la demande pas. Mais curieux.
Je peux te dire que, parce qu'en fait, j'étais bête, hein, j'avais une dizaine d'années, je me rendais pas compte que Picsou, c'était pas un gars vraiment sympa au final. quand j'étais sur Caramel, je vais te le dire, j'ai fait Nicolas à Caramel, ça marchait pas, Nicolas 1, ça marchait pas, puis j'en ai eu marre, et en fait, à l'époque, c'était du 56K, donc en fait, à chaque essai, il y avait un temps où il fallait attendre, quoi. Et en attendant, je lisais un super Picsou géant. Et voilà, du coup, j'avais Picsou en face de moi, et du coup, j'ai essayé Picsou et mes initiales, et voilà. Ce qui est sûr, c'est que personne me le volera, je pense, parce que c'est tellement débile que voilà. Donc, si je vais sur un site et qu'il y a déjà ce username, il y a de bonnes chances que ça soit moi.
Et que t'aies oublié que t'avais déjà créé un compte.
Exactement, exactement.
C'est une bonne stratégie. Et puis, t'es aussi sur le Slack, du coup, de No Code France.
Ouais.
Récemment, donc ça c'est top, c'est cool. D'ailleurs, t'as déjà répondu à plein de questions de gens sur Typeform, donc c'est super.
Ouais, des questions sur Typeform ou sur d'autres outils, hein, n'hésitez pas. Et puis moi, je suis là-bas aussi pour découvrir et apprendre des trucs. Mon intérêt du no-code, c'est un intérêt aussi personnel et de voir comment les choses évoluent pour qu'on soit pas à la traîne. C'est aussi ça qui m'intéresse dans un niveau professionnel, c'est d'être sûr qu'on loupe pas le prochain wagon, quoi.
Ouais, ce qui n'est pas évident, hein, ce qui demande une veille constante, mais c'est ça aussi qui est passionnant. Eh ben écoute, super, merci pour tout ça. Alors c'est encore un peu, secret, pas vraiment secret, mais donc là je le dis pour les gens qui auront écouté jusqu'au bout, mais donc il y a un petit, un très sympa coupon de Typeform pour les membres du Slack. Donc ouais. On va annoncer quand l'épisode sortira. Donc ça me fait un peu des nœuds dans la tête là parce que quand on enregistre c'est pas encore public, mais bon, ça le sera. Donc voilà, j'en dis pas plus. C'est pour les gens qui sont sur le Slack. Donc de toute façon, j'invite toujours les gens qui écoutent le podcast à venir sur le Slack pour venir discuter. Et là en plus, ils pourront discuter avec toi et avec moi puisqu'on est tous les deux sur le Slack suite à l'épisode. Donc j'espère qu'il y aura des discussions.
Ouais, génial, hâte de voir tout ça.
Ouais, moi aussi, et puis j'espère qu'on sera surpris par ce que des gens vont créer avec Typeform. Ça, c'est vraiment un des trucs que je préfère, c'est les gens qui se servent des outils dans des contextes auxquels on pense pas, donc j'espère qu'il y en aura en France et dans les no-codeurs du Slack. Merci beaucoup, merci pour ton temps, et puis je te dis à très bientôt pour des futures discussions.
Merci beaucoup pour l'invite, c'était génial, à la prochaine, salut.
Merci, salut. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si ce n'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.